Le Grand Matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Le débat de la semaine, ce sont les images de Kalachnikov, d'armes de poing, de rodéo et de violence dans les rues de Dijon qui ont choqué la France entière. Des émeutes qui suivent d'autres émeutes qu'on a vues au fil du temps dans d'autres villes comme Vaux-en-Velin dans les années 80, Toulouse dans les années 90 ou encore toute la France à l'automne 2005. Pourtant, on ne peut pas dire que les banlieues aient été oubliées puisque celles-ci ont reçu depuis 1977 et le premier plan banlieue, plus de 100 milliards entre rénovation urbaine, création des zones franches urbaines ou encore mise en place des ZEP. Le quartier des Grésilles, théâtre des événements de ces derniers jours à Dijon, avait bénéficié de 135 millions d'euros pour sa rénovation. Pour le résultat qu'on connaît, d'où la question du débat du dimanche sur Sud Radio, faut-il arrêter de déverser de l'argent dans les quartiers? Et pour le moment, vous êtes 88% à dire oui sur Twitter et 77% sur Facebook. Pour en débattre avec nous, Rachel Binaz, journaliste indépendante qui a fait de nombreux reportages sur les quartiers. Rachel Binaz, bonjour.
Bonjour.
Et vous me permettez de vous le souhaiter, bon anniversaire.
Merci.
Et bienvenue sur Sud Radio. Nadia Hay, députée La République En Marche des Yvelines et vice-présidente du groupe d'études villes et banlieues de l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio, mais vous, ce n'est pas votre anniversaire, donc je ne vous le souhaite pas. Et Farid Temsamani, porte-parole de Banlieue Plus. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bienvenue sur Sud Radio. On va commencer avec la députée Nadia Hay. Quand on voit les événements de ces derniers jours à Dijon, on se dit, pour faire du Emmanuel Macron, que les quartiers, ça coûte un pognon de dingue pour des résultats pas franchement à la hauteur.
Alors déjà, on ne va pas du tout attribuer cette expression d'Emmanuel Macron au quartier. C'était prononcé.
Ah non, mais je l'ai cité parce qu'elle a fait Florès.
Oui, elle a fait Florès, mais absolument pas sur la question des quartiers. Ça a été une phrase sortie un peu de son contexte. Le sujet aujourd'hui, moi je pense que c'est pas tant est-ce qu'on met trop d'argent dans les banlieues ou c'est qu'est-ce qu'on en fait réellement. Parce qu'effectivement, quand on fait cette comparaison que vous venez de faire, c'est-à-dire de citer un chiffre comme ça de budgets qui ont été mis depuis maintenant plusieurs années et le résultat que l'on voit à la télé, on peut se dire qu'effectivement, cet argent n'a servi à rien. Mais la réalité, elle est vraraiment totalement différente. C'est de savoir effectivement ce qu'on en fait et ce que l'on voit à la télé ne reflète pas toujours ce qui se passe dans les quartiers. Alors est-ce que cette insécurité, est-ce que ces violences existent? Oui, la réponse est oui, mais est-ce qu'il existe aussi des réussites et une image complètement différente de ces quartiers? La réponse aussi est mille fois oui. Donc je pense pas que ça soit juste une question de d'argent. Je pense que le budget qui est consacré est à la hauteur des difficultés que rencontrent nos concitoyens qui y résident, voire même pas suffisant. Et donc notre politique aujourd'hui que nous souhaitons porter, elle n'est pas déterminée en fonction du budget qu'on y met, mais en fonction du besoin réel de nos concitoyens.
Rachel Binaz.
Disons que depuis grosso modo 40 ans, on a vu une dizaine de plans banlieues, comme on aime à dire, se succéder. Grosso modo, aucun n'en fonctionnait. Hein. Alors je ne dis pas que la politique de la ville est inefficace, elle a des petits succès, mais rien en profondeur. Parce que si vous voulez, on s'attaque, la politique de la ville va s'attaquer aux conséquences, mais pas aux causes véritables des problèmes. Donc non, le résultat est plutôt mauvais et continuera à l'être jusqu'à ce que voilà, on se saisisse réellement des problèmes originels, ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle et ce qui n'est pas fait, en fait, qui n'a jamais été fait depuis près de 40 ans.
Farid Temsamani, porte-parole de Banlieue Plus, ça coûte beaucoup d'argent et des résultats qui ne sont pas franchement à la hauteur.
Ce qui est certain, c'est que la politique de la ville est clairement inefficace. Alors effectivement, c'est les succès qui... Les succès potentiels de la politique de la ville sont franchement très à la marge. Alors, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, en fait, la politique de la ville est très très faible en France. C'est à peine un demi-milliard d'euros sur le budget, si je ne dis pas de bêtises, en 2020, sur une population de 5 millions d'habitants, 751 quartiers dits prioritaires. En réalité, il y en a 2500. Le quinquennat précédent, en fait, les avait réduits par affichage. En réalité, très clairement, il y a très peu d'argent qui est déversé dans ces quartiers-là. La difficulté, c'est qu'on fait un cumul de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Effectivement, sur 100 milliards, faut jamais oublier que sur 100 milliards, il y a la moitié qui sont dédiés à la rénovation urbaine. Et ça n'est pas de l'argent public, ce sont de l'argent des bailleurs sociaux. Et je rappelle encore une fois que les gens qui vivent dans les quartiers populaires payent très souvent des loyers. Donc du coup, ça n'est pas que de l'argent public. Néanmoins, il y a de l'argent public. Est-ce que ça a été efficace? Pas du tout. Est-ce que ça l'est aujourd'hui? Pas du tout. Est-ce que ça le sera demain? Je n'y crois pas, malheureusement.
Nadia, est-ce qu'on prend le problème par le bon bout, finalement? Parce que le premier plan banlieue, c'était sous Valéry Giscard d'Estaing. Certains des débatteurs n'étaient pas nés. D'ailleurs, je crois qu'aucun des débatteurs n'était né lors du premier... Votre serviteur, oui. Lors du premier plan banlieue. J'ai l'impression que les plans banlieue, c'est un peu comme les gosses plans dans l'ex-URSS. C'est-à-dire qu'on en fait les uns après les autres, mais que quoi qu'il fasse, quoi qu'on fasse, ça marche jamais.
Moi, je pense qu'effectivement, si on en est arrivé là après des décennies d'action et de l'argent qui ne se voit pas au quotidien, c'est que oui, on ne prend clairement pas le problème par le bon bout. Et d'ailleurs, c'est le message qu'a voulu délivrer le président de la République sur le rapport de Borloo. Beaucoup ont parlé d'enterrer un rapport, que ce travail qui a été mené a été fait pour rien, toutes les concertations qui ont été menées n'ont été faites pour rien, mais en réalité, c'est parce que justement, on ne voulait pas arriver à une liste à la Prévert en disant, voilà, il faut faire tel investissement. L'idée, c'est comment on repense la politique de la ville et comment on la repense à l'aune de tous ces objectifs que l'on voudrait atteindre, à savoir ceux un objectif pour réduire le taux de chômage dans ces quartiers parce qu'il est énormément important, parce qu'il n'y a pas de tissu économique, mais parce que il y a aussi une vraie discrimination qui est portée à leur encontre. C'est aussi tout ce qu'on fait en matière d'éducation, comment on apporte la qualité de l'éducation, comment on apporte un peu plus de liens culturels dans ces quartiers, c'est toute une politique à repenser et pas effectivement des plans qui se succèdent et qui malheureusement ne portent pas toujours leur effet. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit sur la question des budgets.
Par Farid Temsamani.
Voilà, par M. Temsamani. Donc sur la question des budgets, la politique de la ville, effectivement, c'est un budget un tout petit peu en dessous de 500 millions d'euros, mais tel qu'on l'entend, c'est-à-dire sur l'accompagnement aux associations, sur la création de postes adultes relais. Enfin voilà, c'est vraiment une très très petite partie de toute la politique de la ville que nous portons, parce que ce que nous avons souhaité, c'est que cette politique qui était une politique d'exception entre finalement dans une politique de droit commun. Et c'est ce que nous avons fait, notamment quand on a mis en place les quartiers de reconquête républicaine, en mettant un petit peu plus de forces de l'ordre dans ces quartiers. C'est aussi quand on divise par deux les classes de CPCE1, qui sont typiquement une mesure en faveur des quartiers politiques de la ville. Donc c'est tout ce que nous faisons sur la rénovation aussi urbaine, où effectivement une grosse partie est apportée par les bailleurs sociaux, par l'intermédiaire d'Action Logement, mais l'État, jusqu'à 2017, n'avait jamais respecté le montant qu'elle devait justement verser à ses bailleurs pour pouvoir procéder à ces rénovations urbaines. Depuis 2017, c'est 1 milliard d'euros que l'État a mis dans la question de la rénovation urbaine et dans l'ANRU. Et ça, je peux en témoigner, je siège également au conseil d'administration de l'ANRU. Donc l'État a une politique un peu plus volontariste dans les quartiers, mais ce qu'elle voudrait aujourd'hui et ce que nous souhaiterions, c'est changer de paradigme, en menant une politique non pas en fonction du budget qu'on est prêt à mettre, mais en fonction, on part du besoin de la population et ensuite nous déterminons le budget qui l'accompagne.
Rachel Binaz, vous avez fait beaucoup de reportages en banlieue en tant que journaliste indépendante. Les paradigmes à changer, ce serait quoi pour vous?
Les paradigmes à changer, déjà comprendre que le véritable problème, il n'est pas forcément économique ou urbain, même s'il y a des soucis économiques et urbains, mais il est principalement culturel. Mais pour ça, il faut vraiment saisir l'enjeu, le comprendre et comprendre que on ne pourra pas acheter la paix sociale qui n'arrive même plus à se maintenir à coup de subventions et à coup d'argent. C'est ça, c'est aussi la question du clientélisme. Moi, je veux bien hein, qu'on parle de politique volontariste, mais c'est pas vraiment ce qu'on a vu à Dijon, puisqu'on a ouvert le sujet avec ça, dans le quartier des Grésilles, quand on a vu qu'il a fallu 3-4 jours pour arrêter 5-6 personnes. C'est... Au contraire, il y a une peur, en fait. Il y a une véritable peur de se saisir de ces enjeux-là. Il y a une peur d'intervenir et puis de vivre une espèce d'embrasement et que le reste des quartiers, des zones sous tension se réveillent. Et puis tout ça, voilà, arrosé de clientélisme qui n'est pas le propre ni de la gauche ni de la droite. Enfin, c'est extrêmement bien
réparti
hein, mais c'est, voilà, comprendre que les enjeux, en fait, ils sont culturels et on peut déplacer le problème, décider, et on a raison à certains égards, d'abattre des tours avec cette architecture comme ça soviétique pour en faire ensuite des zones pavillonnaires ou alors des appartements de sur 3 ou 4 niveaux maximum. Mais en fait, on ne fait que déplacer le problème. Aujourd'hui, par exemple, la question à Dijon du quartier des Grésilles et de cet emballement entre Tchétchènes et trafiquants de drogue, elle s'est réglée où ? L'armistice a été signé à la mosquée. C'est l'imam qui a reçu les deux parties. La paix sociale s'est donc réglée à la mosquée. L'État a été complètement absent de cet enjeu-là et de ces événements.
Ça, justement, Farid Temsamani, vous entendez, ça a beaucoup choqué les Français qu'on fasse la paix sociale à la mosquée avec un imam a priori salafiste. Ça prouve quand même que l'État, surtout une république laïque, a tout abandonné.
Mais c'est là qu'en fait, moi, je partage en partie ce qui vient d'être dit. En réalité, il n'y a jamais eu de volonté politique de régler le souci dit des quartiers populaires ou de la banlieue. Alors, on peut remonter effectivement au premier plan de 77, mais à chaque fois, c'est du rafistolage. On achète petit à petit parce que il y a une actualité. On achète à coup de subventions, du saupoudrage. Alors, j'entends bien que on a changé de paradigme, on essaye de voir les choses différemment depuis 2017. La réalité, c'est que même depuis 2017, je suis désolé de le dire, c'est que même si on prend l'ensemble des budgets, même s'il ne s'agit pas que d'argent, en réalité, c'est très peu quand on fait une corrélation par rapport au nombre d'habitants et aux soucis et aux maux de ces quartiers-là. Maintenant, je suis complètement d'accord. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas voir les quartiers populaires uniquement sur un prisme économique ou financier. Les besoins réels des quartiers populaires, vous imaginerez, c'est hallucinant en termes de besoins. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement jusqu'à présent qui a décidé de véritablement s'attaquer à cette thématique-là. Pourquoi ? Parce que ça coûte énormément d'argent et surtout, depuis 40 ans, en fait, on a reculé. C'est-à-dire que maintenant, pour corriger tous ces maux-là, il faudrait un plan pluriannuel de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et or, ni les Français ni les gouvernements sont prêts ou assumeront cette chose-là. Je rappelle juste sur ce qui s'est passé à Dijon. C'est un scandale d'État, en réalité, ce qui s'est passé à Dijon. Se permettre que l'autorité d'État soit aussi bafouée. Alors, on va parvenir sur les différentes manifestations, mais c'est quand même hallucinant que des gens qui vivent dans ces quartiers-là, qui sont les premières victimes de ce terrorisme, entre guillemets, des narcotrafiquants, etc., être abandonné par la puissance publique. Et j'ai beau entendre hier le procureur de la République nous dire que c'était quelque chose d'exceptionnel, inattendu ou quoi que ce soit, les gens qui vivent dans ces quartiers-là, eux, ils le savent pertinemment que la situation ne date pas d'hier et que surtout que les moyens n'y sont pas du tout. On parle des forces de l'ordre, par exemple. Vous savez quel est le taux de policiers dans ces quartiers-là ? Il est relativement faible. Finalement, il y a, quand vous regardez en corrélation encore une fois à la population, il y a très peu de policiers dans ces quartiers par rapport à d'autres arrondissements de Paris, par exemple. Et ça, c'est un scandale d'État. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de volonté politique, en tout cas, pour corriger ça.
Alors, excusez-moi, aussi parce que une petite chose, aussi parce que les politiques sont hantés par le souvenir de 2005 et parce qu'ils craignent en fait ensuite une espèce d'effet domino. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais c'est quelque chose qui est encore très présent dans les esprits. Et c'est aussi pour ça que l'État n'est pas intervenu.
Vous avez complètement raison, c'est qu'on est toujours dans cette même logique, c'est surtout pas de vagues, surtout que ça ne s'embrasse pas partout ailleurs, mais en réalité, on sait pertinemment ce qui va se passer cet été. Suite à la crise sanitaire, économique et sociale, on sait pertinemment qu'en fait, les quartiers sont à fleur de peau et que potentiellement, à tout moment, ça peut sauter. La difficulté, c'est encore une fois, on fait du saupoudrage juste sur le temps que ça passe. Encore une fois, c'est ça. On parle de 2005. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005? Est-ce que les quartiers ont véritablement évolué? On parlait tout à l'heure de clientélisme. Est-ce que le clientélisme a disparu dans le quartier? On vient de passer une campagne électorale des municipales. Bah, je peux vous garantir que non seulement il n'a pas évolué, mais en plus, il s'est...
Nadia, le mot de la fin en 20 secondes.
Oui, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites que je ne peux absolument pas laisser passer. Par exemple, quand on dit que l'État abandonne ses quartiers, c'est complètement faux. La police, le nombre de policiers et de gendarmes, la réalité, c'est qu'il a diminué entre 2012 et 2017. Entre 2007 et 2012. Et que, donc, il y a plus de 13 000 emplois dans la police et gendarmerie qui ont été supprimés. Et que depuis que nous sommes en responsabilité, c'est plus de 2500 postes créés au sein de la police et la gendarmerie, avec une volonté de mettre un petit peu plus de forces de police dans les quartiers, d'où les quartiers de reconquête républicaine. Je vais vous prendre un territoire que je connais très bien, très qui court. Est la ville de Trappes, dont je suis élue et issue également. C'est plus de 15 forces de police qui ont été mises au commissariat de Trappes. Donc on ne peut pas dire que la République abandonne les quartiers, parce que ce n'est pas vrai. Il y a plus de bruit aujourd'hui dans les quartiers. Et il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites là, et moi ça m'agace un petit peu de faire le lien avec 2005, qui n'a vraiment rien à voir.
C'est important de le faire.
2005, on ne peut pas comparer, parce que ça part justement d'une histoire d'injustice qui a été vécue comme telle dans les quartiers, et je peux très bien en parler parce que j'ai habité à
Mais ça hante les mémoires encore.
J'ai vécu en direct. Non, vous ne pouvez pas comparer.
Je peux le faire.
L'attente des images que nous avons vues, c'est de mettre le feu dans les quartiers. Moi, là-dessus, je suis complètement contre de faire ces raccourcis trop faciles.
Merci à tous les trois. Merci à Nadia, députée LAREM des Yvelines, Rachel Bina, journaliste indépendante, et Farid Temsamani, porte-parole de Banlieue Plus. Verdict 88% sur Facebook et 77% sur Twitter disent toujours qu'il faut arrêter de déverser de l'argent dans des quartiers. Dans quelques instants, un potager pour les enfants dans la chronique jardinage, et ce sera en compagnie de Valérie Chancel.